qui va faire suite à ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions parlé de l'assurance que donne le Saint-Esprit et nous avions vu comment les chrétiens de la première église avaient cette caractéristique qui venait d'en haut. Ce n'étaient pas des grands orateurs, ce n'est pas des gens qui étaient passés par toutes sortes de facultés, etc. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et nous avions parlé de cela. Voulons continuer sur l'action du Saint-Esprit et nous allons aller dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3 et au verset 21. Chapitre 3 et le verset 21 de l'Évangile selon Luc. Et nous allons voir l'action du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, dans la vie du Fils de Dieu, de celui qui s'est incarné. Et nous allons voir que le Seigneur nous montre avec détail ce qui se passe lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. À quelle action on doit s'attendre? Alors, on lit ensemble dans l'Évangile selon Luc, donc au chapitre 3 et au verset 21. Il nous est dit ceci: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, sous-entendu baptisé d'eau. Voilà, c'est Jean-Baptiste qui baptise. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Matthieu, on s'aperçoit que Jean-Baptiste refuse dans un premier temps parce qu'il dit mais moi je baptise les gens qui se reconnaissent pécheurs et c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, pas. Et le Seigneur objecte en disant mais c'est la volonté de Dieu et donc on continue. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et au chapitre 4, verset 1er, il est dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit: tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué que dans ce texte de la parole de Dieu, le Saint-Esprit apparaît à de nombreuses reprises. Puisque le Seigneur lui-même dira en citant ce texte d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et dans ces passages que nous avons lus, eh bien, nous découvrons que le Saint-Esprit est en pleine action, puisque tandis que Jésus se fait baptiser, eh bien, le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle. Au chapitre 4 et au verset 1er, il nous est dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit rempli, et ensuite, Jésus est conduit par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit conduit, et puis ensuite, au verset 14, il nous est dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit, donc le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance, et à la fin, Jésus peut déclarer franchement et librement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces choses sont mises en détail, c'est pour notre enseignement. La semaine dernière, nous avons lu, je vous le rappelle, bien sûr, ce texte dans Actes 4 au chapitre Acte 4 et notamment le verset 31 qui nous parle de l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'Église. Mais ici, voulons voir cette action, j'allais dire intérieure, ce à quoi on doit s'attendre quand l'Esprit de Dieu agit dans notre vie et comment celui-ci agit et pourquoi agit-il également. Et toutes ces choses, nous allons les voir et nous allons appeler l'action du Saint-Esprit, nous allons l'appeler l'onction. Nous allons l'appeler l'onction. Et nous allons voir que cette onction est en rapport avec la mission que Dieu nous donne. Nous allons voir que cette onction est en rapport avec la direction que Dieu veut que nous ayons. Et pour cela, il nous remplit, il nous conduit. Et puis, nous allons voir que cette onction est en rapport avec les attaques que le diable veut nous soumettre par rapport à notre filiation. Il va y avoir une œuvre de conviction afin que nous puissions avancer. Alors tout d'abord, vous avez remarqué que dans ce texte-là, l'Écriture nous dit que Jésus est conduit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Christ, vous le savez peut-être, ça signifie celui qui a reçu l'onction, celui qui marche en étant conduit par le Saint-Esprit. Il y a de nombreuses prophéties, ici on en a lu une lorsque Jésus la cite dans la synagogue de Nazareth, où les prophètes annoncent la venue d'un homme particulier, le serviteur de l'Éternel spécial, qui sera conduit non pas par des pensées humaines, non pas par des raisonnements, non pas par des plans humains, mais qui sera conduit par l'Esprit de Dieu lui-même. La Bible décortique les choses en disant que l'origine de cet homme remonte au jour de l'éternité. Et il faudra vraiment la venue de Jésus pour que tout se révèle et s'explique. En réalité, cet homme n'est nul autre que Dieu parmi les hommes. Dieu qui s'est fait homme, alléluia, afin d'apporter le salut. Et nous voyons que Jésus est celui qui va accomplir son ministère conduit par le Saint-Esprit. Cela, c'est quelque chose d'une grande valeur pour nous. Nous nous appelons et nous nous désignons comme étant des chrétiens. Le mot chrétien est apparu dans la Bible. C'était un colibé, on pense, un langage moqueur pour désigner les disciples de Jésus. Et il est apparu historiquement pour la première fois dans la ville d'Antioche, en Turquie actuelle. Acte 11-26 nous en parle. Et on peut vraiment supposer que non seulement ces hommes-là, ces disciples, ces premiers chrétiens, parlaient de Jésus-Christ publiquement et à tout le monde, mais également ils insistaient sur le fait qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous voulons être de celles et ceux que le Seigneur conduit par son Esprit. Il y a toute une différence entre être conduit par le Saint-Esprit et ne pas être conduit par le Saint-Esprit, même quand on le sert, on va le voir tout à l'heure. J'avance une référence que j'avais prévu de donner un petit peu plus loin, mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, peut-être vous en souvenez, on se pose la question, Judas est mort, on était 12, on est 11, il faut remplacer Judas. Vous vous souvenez de ça ? Et pour remplacer Judas, ils se disent, on en a deux qui nous paraissent pas mal, Matthias et un autre dont j'ai oublié le nom, lequel des deux ? Ils tirent au sort. Je ne sais pas, ils ont fait quoi ? La courte paille, peut-être. Ils ont fait Astramgram, Et humainement parlant, l'un n'est pas meilleur que l'autre, il en faut un, on va choisir comme ça. Mais ça, c'est quand on n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est quand on est conduit par une volonté humaine. On ne privilégie personne, alors bon, voilà. Mais ça va changer lorsque le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Et dans le livre des Actes, toujours dans, au chapitre 13e, lorsque l'équipe pastorale de cette église d'Antioche, où on les appelait des chrétiens, ils voulaient être conduits par le Saint-Esprit, ils jeûnent et ils prient dans leur ministère. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit leur parle. Et il leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah, ils n'ont pas tiré au sort, hein. Peut-être qu'ils se posaient bien la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans l'église? On a des docteurs, des enseignants, ils sont impeccables. On a des gens qui sont des prophètes, c'est-à-dire un prophète dans le Nouveau Testament, c'est des gens inspirés, qui ont une prédication inspirée et qui fait du bien au temps présent pour le peuple. Alléluia. Et ils disent, mais il nous manque quand même quelque chose, c'est que le Seigneur nous a invités à partir et à témoigner de son œuvre. Tous ont besoin d'être sauvés. Et alors, qui c'est qu'on va choisir? On va choisir lui. Il y avait un certain Niger, il y en avait d'autres, etc. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part. Alléluia. Et vous avez convenu comme moi que le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. Parce que lorsqu'il a mis à part Barnabas et Saul, le deuxième, là, Saul, c'est devenu, excusez-moi, une bombe quand même, hein, entre les mains du Seigneur. Alléluia, hein, l'apôtre Paul, alléluia. Le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. Amen. Alors nous voulons être de celles et ceux que le Seigneur veut conduire. Et vous avez remarqué, eh bien, que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle tandis que Jésus s'est fait baptiser. Alors ça nous pose question parce que quand même, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas une origine humaine. De tout temps, le Saint-Esprit agit. Mais il y a quelque chose de supplémentaire. Il y a comme une approbation et d'ailleurs, la voix du Père se fait entendre des cieux, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voyez. Et tandis que Jésus se fait baptiser, ouais, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, etc. Ben, le baptême, qu'est-ce que ça représente? C'est un acte d'obéissance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé du baptême. Le baptême, eh bien, ça signifie « j'accepte Jésus pour sauveur ». Oui, mais Jésus se faisant baptiser, qu'est-ce que ça signifie? Ben, le baptême aussi, ça parle de mort et de résurrection. C'est-à-dire qu'en se faisant baptiser avec les autres, comme tout le monde se faisait baptiser, il y avait des gens de mauvaise vie qui se faisaient baptiser. La Bible nous dit qu'il y avait des prostituées qui se faisaient baptiser. Et au milieu d'eux, il y a Jésus. Et Jésus, eh bien, a donné sa vie pour tous les hommes, afin qu'ils passent de la mort à la vie, afin que leurs péchés soient pardonnés. Tous les hommes, toutes les femmes. Et le baptême, eh bien, lorsque Jésus prend le baptême, c'est que, eh bien, il annonce ce pourquoi il est venu, sa mission. Je vais vers Golgotha, je vais vers la croix, je vais vers ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire donner ma vie en offrande pour les péchés et de vaincre la mort. Et il annonce ainsi sa résurrection. Et tandis qu'il accomplit cet acte d'obéissance qui avait été prévu dès avant les temps éternels par son Père, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui comme sous la forme corporelle d'une colombe. Je voudrais dire, mes frères et sœurs, eh bien que si nous désirons être conduits par le Saint-Esprit, si nous désirons avoir la faveur de Dieu et avoir une vie spirituelle agissante et de qualité, il faut rentrer dans le plan de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Le Seigneur est venu pour servir son Père, on y reviendra tout à l'heure. Jésus est venu non pas pour accomplir sa volonté, et le Père dit, mais c'est lui mon fils. Un fils, c'est celui qui accomplit la volonté de son Père. Et ici, eh bien, nous voyons que, eh bien, tandis qu'il y a, il y a une colombe, mais ça doit nous parler, ça, une colombe. Et Jean-Baptiste, il a compris. D'ailleurs, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 32, il dira, j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui comme une colombe. Mais qui c'est qui était conduit par une colombe avec l'eau, tout ça? Ça doit vous faire penser à quelqu'un, hein. Vous ne souvenez pas de Noé? Noé, ben, le baptême est semblable aux eaux du déluge. L'eau parle de la mort. Jésus a vaincu la mort. Ben, le jugement a été vaincu. Et Jésus, c'est cette nouvelle arche qui nous sauve. Et ensuite, eh bien, Noé a été conduit non pas par un corbeau, un animal impur, mais par un animal pur, par une colombe. Et nous aussi, eh bien, nous voulons être de celles et ceux qui veulent être conduits par la colombe. Mais nous voulons avoir des motifs purs. Et je voudrais te dire ceci. Bien, tu vas être conduit par le Saint-Esprit, mais alors renonce à tout ce qui est impur, à tout ce qui est sale, à tout ce qui est charnel. Et ne mélange pas ce qui est pur avec ce qui est impur. D'ailleurs, l'Écriture nous dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul, « Ayons donc de telles promesses, mais sortez du milieu d'eux. Sortez de cette Babylone, sortez de l'esprit de ce monde. » Non pas sortir du monde physiquement, de quitter Montpellier et d'habiter dans un coin paumé des Cévennes. C'est pas ça que le Seigneur... Mais de quitter cette mentalité. Et de dire, « Mais Seigneur, je suis... » Si je prononce sur ma vie le nom de chrétien, le nom de Christ, cela signifie que je vais être conduit par le Saint-Esprit et que je veux faire et accomplir la volonté de mon Seigneur et non pas la mienne et d'arranger les choses bric-broc pour dire mais de toute façon Dieu est amour. Vous savez, quand j'étais enfant, le mercredi, j'allais au centre aéré de l'école et de temps en temps, quand il pleuvait, c'était à Lyon, alors il pleuvait souvent, on voyait un film, alors il y avait des beaux films de cow-boys, Gary Cooper, des films de gladiateurs, là, blam, me tenait un coup sur la tête. Voilà. Puis nous, on jouait après dans la cour. Alors, c'était, en fonction du film, c'était plus ou moins calme. Et un jour, on a vu ce film, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Je parle pour celles et ceux qui. Un film blasphématoire qui dit on ira tous au paradis, vous voyez. Voilà. Et on prenait l'amour de Dieu en vain. Mais c'est pas vrai, ça. Dieu est amour, oui. Il a donné son fils, oui. Mais pour qu'on entre dans son plan, alléluia. Et comment retournerions-nous aux choses eh bien, dont le Seigneur nous a lavés, purifiés. Amen, alléluia. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu, amen. Et cette onction, le Saint-Esprit va remplir, et c'est mon deuxième point, et conduire le Seigneur. Notez bien ceci parce que c'est extrêmement important, c'est très déterminant pour la suite. Jésus est rempli du Saint-Esprit et ensuite il est conduit. Cela signifie que si nous désirons être conduits par le Saint-Esprit, nous avons besoin d'abord d'être remplis du Saint-Esprit. Que nos pensées soient ses pensées. Et c'est pour cela que le Seigneur dira à ses disciples, à cette jeune église, avant que vous alliez jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, attendez que la promesse que le Père vous a faite eh bien, s'accomplisse, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, ils vont être animés, alléluia, de cette puissance d'en haut, alléluia, mais être immergés, être remplis eh bien, de la pensée de l'Esprit. Et lorsqu'il nous est dit de Jésus qu'il était rempli, ça veut dire qu'il était rempli, que ses pensées étaient conduites eh bien, par la pensée de son Père, par l'action du Saint-Esprit. Et de la même manière, nous aussi, nous avons besoin d'être imprégnés de cela. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'être remplis du Saint-Esprit, ils analysaient, ils prenaient leurs décisions un petit peu au petit bonheur, la chance, allez, on va tirer au sort pour savoir qui c'est qui va succéder à Judas. Mais lorsque le Saint-Esprit va agir, mais il va les conduire, alléluia, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais on est conduit, même si on ne s'en rend pas compte, alléluia. Amen. Il y a des expériences que l'on fait. La Pentecôte, ça nous permet de vivre ces expériences où le Saint-Esprit agit et nous conduit. Il y a un de mes enfants, cette semaine, il m'a posé une question. Alors il m'a posé la question, j'ai répondu du tac au tac, tac. Et en fait, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il est en train d'apprendre là, c'est que tandis que, alors qu'il m'avait posé la question, mais dans l'après-midi même, j'avais une pensée qui correspondait à la réponse de sa question. Mais moi, je ne savais pas. Et il y a eu tout un raisonnement, tout ça qui s'est mis. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Hein, on prie le Seigneur. Mais c'est, on lit la Bible, on a des pensées, on a des réflexions. Mais le Saint-Esprit, il agit dans notre cœur. Alléluia, amen. Je me souviens très bien de ce moment-là où je préparais un CA et y avait une question sensible. Et tandis que cette question sensible était et devait être abordée, je préparais l'ordre du jour et dans ma réflexion personnelle, il y a eu comme un dialogue qui s'est mis en place avec une question sensible qui est apparue que je n'avais pas prévue. Et là, dans cette situation-là, j'ai eu une réaction un peu impulsive. Je me dis, mais Seigneur, ce n'est pas spirituel d'avoir une réaction comme ça. Seigneur, je devrais avoir une réaction quand même beaucoup plus douce, marquée par l'onction de ton Saint-Esprit. Alors je vais réfléchir, j'ai prié. Si cette réaction, si cette question vient, comment je dois y répondre ? Eh bien, en priant, le Seigneur m'a montré. Et écoutez, ça n'a pas manqué. Le soir même, la question est venue et j'ai remercié le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as prévenu et tu m'as donné de répondre eh bien, avec sagesse. Pas la mienne, hein, parce que la mienne, faut la chercher, je la cherche encore. Hein. Mais être rempli du Saint-Esprit, alléluia, mais être conduit par le Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Lorsque, c'est pas dans cette église, une mère de famille me disait, je sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a mis une pensée, va dans la chambre de ton enfant et cherche quelque chose. Et mais Seigneur, je ne veux pas faire ça, j'ai pas... Vas-y. Une pression dans le cœur. Et pour trouver dans cette chambre des trucs qui n'avaient rien à y faire. De la littérature qui n'avait rien à faire là. Et qui était cachée. Le Saint-Esprit a révélé qu'il y avait des choses diaboliques là. Ben oui, mais c'est beau d'être conduit. Alléluia. Mais on ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit si on n'est pas tout d'abord rempli du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Écriture... Eh bien, va plus loin en nous disant eh bien, que non seulement eh bien, le Seigneur nous remplit pour nous conduire, mais pour nous conduire où ? Pour nous conduire dans le désert, c'est-à-dire sur un lieu de combat occupé par le diable, et il désire que nous remportions là des victoires. Alléluia ! Amen ! Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, eh bien, le Seigneur t'appelle aussi à cela, afin que tu sois quelqu'un de vainqueur, de triomphant, et qui puisse amener la victoire de Jésus, là où c'est le désert, et de transformer le désert en jardin. Alléluia ! Mais pour tout cela, il faut être rempli du Saint-Esprit, pour amener cette victoire d'en haut. Amen ! Amen ! Alors, il y a une chose, et je voudrais que, c'est peut-être un peu le, j'allais dire, le cœur du message. Premier point, c'était cette onction que le Seigneur nous accorde pour la mission, lorsqu'il y a cette obéissance à sa parole. Et puis, cette onction, le Seigneur nous l'accorde pour qu'on soit dirigé, conduit, et avec des outils, on va y revenir, surnaturels, les armes, les dons spirituels, etc. Mais cette onction nous est accordée aussi pour confirmer notre filiation. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quand on lit la parole de Dieu, c'est quelque chose un peu compliqué là, ici, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui ou non ? Oui, mais il est le Fils de Dieu dans son abaissement. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le ciel. Hein. Il est sur la terre. Un simple homme. Et extérieurement, on ne le distingue pas des autres hommes. Et d'une certaine manière, eh bien, on est dans cette même situation. Nous aussi, on est dans un abaissement. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Il n'y aura ni homme, ni femme. On sera rendu semblable au Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Mais en attendant, on est toujours sur la terre. Oui ou non ? C'est pas vrai ? Et vous avez remarqué que le Saint-Esprit eh bien, va amener Jésus eh bien, dans le désert et celui-ci va être tenté et le diable va l'attaquer sur un point bien précis, sur son identité de fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Le diable sait très bien qui est Jésus. À plusieurs reprises, lorsque le Seigneur intervient et qu'il chasse des démons, les esprits impurs disent « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, etc. » Mais le monde spirituel sait qui est Jésus-Christ. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, c'est le vainqueur. Et le nom de Jésus fait trembler les démons et l'enfer. Alléluia. Mais alors qu'il le sait, le diable veut quand même mettre en doute, c'est quand même terrible, l'identité de Jésus. La première et la deuxième tentation que nous avons, et la troisième pardon, tentation commence par ceci. Si tu es fils de Dieu... Et ensuite, dans la deuxième tentation, eh bien, Jésus répond en disant « Mais tu n'adoreras que Dieu seul. » Et donc, c'est vraiment la relation du Fils vis-à-vis du Père, eh bien, qui est attaquée. Cette question d'identité, elle est centrale. Et le diable, eh bien, veut attaquer. Et si Jésus a été attaqué de cette façon-là. Nous croyons que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous passerons par des événements où le diable va nous attaquer justement sur notre identité d'enfant de Dieu. Mais tu es sûr que tu es vraiment un enfant de Dieu ? Enfin, regarde, tu n'as pas vraiment les victoires que devrait avoir un enfant de Dieu. Regarde, t'as pas, et tu ne te souviens pas de ceci et de cela ? Tu es sûr vraiment que tu es sauvé ? Et l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu qu'il avait rempli l'a conduit dans le désert, et on va le voir ensemble, Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est sorti vainqueur. Eh bien, il n'y a pas eu, j'allais dire, de grands miracles. Il y en aura plus tard, des résurrections, des lépreux qui sont guéris, etc., etc., etc. Mais là, c'est un dialogue, c'est spirituel. Il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va l'amener à être victorieux, eh bien, sur Satan dans ces moments. Et je voudrais te dire ceci. Le Seigneur également veut te rendre vainqueur. Il y a trois points qui sont cités, donc ces trois tentations. On pourrait les simplifier comme ça. Enfin, je l'ai dit à ma façon. Voilà, lorsqu'il est dit, je reprends, excusez-moi, le texte. Hein. Lorsqu'il est, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bah, tu jeûnes, tu pries, il ne se passe rien, il n'y a pas de miracle. Tu ne trouves pas que c'est bizarre, ça ? Tu jeûnes, tu pries, et puis regarde, le monde, tu veux le gagner ? Mais pour gagner le monde, il faut que tu adoptes l'esprit de ce monde. Il faut que tu entres dans le schéma et le processus de ce monde pour avoir du succès. Et puis, ah, Dieu, c'est ton Père. Mais demande-lui ce que tu veux. Demande-lui vraiment quelque chose qui te fera plaisir et qui montrera qui tu es, ta position, etc. Alors, Jésus va répondre en disant à chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais je voudrais vous faire remarquer que Jésus va parler comme un fils. C'est important pour la suite. Et lorsque le diable lui dit, eh bien, de changer les pierres en pain, Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit, mais un fils, il se nourrit de la volonté de son père. Le fils se nourrit de la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et ce qui compte, c'est pas qu'il y ait des miracles ou qu'il n'y ait pas des miracles. Ce qui compte en tant que fils, et Jésus peut parler comme ça, c'est que je fasse la volonté de mon Père. Dites-moi, le miracle de la résurrection, il aura lieu 3 jours après sa mort physique. À l'instant T, il n'y a pas eu de miracle prononcé. Et pourtant, la victoire, elle est là. Et il dira, tout est accompli. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. L'autre point où le Seigneur va répondre, Jésus, un fils possède une relation d'amour unique. Comment peux-tu dire ? Eh bien que pour gagner le monde, eh bien je dois adopter l'esprit de ce monde, c'est-à-dire me prosterner devant celui qui est le prince de ce monde, mais je déshonorerai mon Père. Et puis, entre parenthèses, excusez-moi, peut-être ça va vous choquer, Jésus n'est pas venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver les hommes et les femmes qui sont dans ce monde. Le monde va vers sa fin. Le monde sera jugé. Mais le Seigneur nous sort du monde pour nous faire entrer dans son ciel de gloire. Alléluia. Et je voudrais vous dire que s'il y a la tentation dans le cœur d'un chrétien de dire « Eh ben, pour avoir les succès dont j'ai besoin dans ma vie, il faut que je fasse des concessions avec ce monde et que j'adopte les principes de ce monde », attention, tu risques de tout perdre. La Bible nous parle d'un certain Lot, vous vous souvenez ? Qui a voulu réussir dans les affaires et il est devenu un personnage important dans la ville de Sodome et vous savez la fin que ça a été. Il a été sauvé juste, mais sa femme est décédée. C'était la faillite dans la famille et toutes ces affaires elles ont été réduites en cendres. Le Seigneur est venu non pas pour sauver le monde et son système, vous savez, l'ONU et tout ça, ça n'existera plus. mais il est venu pour sauver les hommes qui sont dans ce monde. Alléluia. Il est venu pour te sauver, toi. Alléluia. À lui soit la gloire. Et un fils, eh bien, est celui qui sert le Père, non pas avec des intérêts personnels en disant, bah, j'ai soif de reconnaissance, Père. J'ai soif que tu montres qui je suis. Mais enfin, dis-leur, montre-leur. C'est pas ça. Moi, Seigneur, c'est pas à toi de faire ma volonté, c'est à moi de faire ta volonté. Et il reste dans l'humilité et je ne vais pas tenter, mon Dieu. Alléluia. Si on gratte un peu plus loin, et si je simplifie encore un peu plus ce que le diable dit à Jésus et qu'il peut te dire à toi, enfin, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de puissance. Depuis combien de temps tu pries ? Regarde, il n'y a pas de puissance. Tu n'as pas de succès dans tes affaires, on en a parlé tout à l'heure. Tu n'as pas de reconnaissance, on ne te reconnaît pas, tu n'as pas, etc. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pour le diable, un enfant de Dieu se reconnaît à ce qu'il possède, à ce qu'il a. Vous savez qu'en français, il y a deux auxiliaires. Il y a l'auxiliaire être, Maggie, et l'auxiliaire avoir. Alors Maggie et Martine, vous les voyez ensemble, c'est des pros de l'orthographe. Voilà, alors là vous allez les voir, si vous avez un problème d'orthographe, vous allez les voir. Et vous savez qu'en français, l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être, oui ou non ? Mais ça ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire que l'identité d'une personne en français, c'est très riche, le français c'est formidable pour ça, nous fait comprendre une chose, ton identité n'est pas déterminée par rapport à ce que tu as, même par rapport à ce que tu fais, ton identité est déterminée par rapport à ce que tu es. Et je voudrais lire avec vous ceci. Vous êtes avec moi. Je m'excite, excusez-moi. Mais c'est beau. Romains chapitre 8 et le verset 14. Romains 8, 14. Vous aimez lire la Bible ? Amen. Voyez, David, il vous a dit tout à l'heure plus fort. Hein. Est-ce que vous aimez lire la Bible ? Amen. Vous êtes encore en vacances. Hein. Alors, Romains 8, verset 14, il est dit ceci. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, on y revient, voilà, c'était cela. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, etc., etc. Mais il nous est parlé ici d'être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas à ce qu'il a, mais à ce qu'il est. Alléluia ! Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Et mon succès devant Dieu ne dépend pas des miracles et de ceci et de cela, mais il dépend de ce que je suis vraiment devant Dieu. Je connais mon Seigneur. Et même l'Écriture nous dit bien plus, je suis connu de lui. Alléluia ! Amen. Et dans son abaissement, ce que le Seigneur, eh bien, nous fait découvrir, bien qu'il soit homme, eh bien, l'Esprit de Dieu le met en déroute le diable. Il a les armes de l'Esprit, l'épée de l'Esprit qui met, eh bien, qui révèle toutes les faiblesses et qui renvoie le diable, eh bien, dans les oubliettes. Pourquoi cela ? Parce qu'il affirme ceci, eh bien, un enfant de Dieu, eh bien, ne se reconnaît pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Alléluia. Et Jésus est vainqueur. Et le diable est vaincu. Je suis abaissé. Je suis descendu. Je fais parler le Seigneur. Comme si on était là. Il est descendu. Je me suis abaissé. Je me suis humilié. Un simple homme. Je vais à la croix du calvaire. Le Seigneur va être fatigué. On le sait. Il pourra dormir. Il mangera. Il aura faim. Comme un simple homme. Mais il dit ceci. Je reste et je suis toujours le Fils de Dieu. Et quand je dis une chose, les choses s'accomplissent. La tempête se calme. Alléluia. Mais c'est important pour nous. Parce que nous aussi, on est abaissés. Camille va partir, et les autres aussi, etc. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Ne perdons pas cette assurance de cette action de l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre que quelles que soient les situations, eh bien, nous sommes toujours des enfants de Dieu si nous demeurons en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça la Pentecôte. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça ne veut pas dire, vous aurez une belle prédication, vous aurez un témoignage. Ce n'est pas ça. Vous serez mes témoins. Être un témoin. Dis-moi, dans le travail, dans la famille, tu es connu pour quoi ? Pour quelqu'un qui a un beau langage, qui a un beau discours, qui parle beaucoup de Jésus, ou pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu ? C'est différent, hein ? C'est différent, hein ? On peut avoir beaucoup de connaissances, on peut avoir beaucoup d'aisance, mais ne pas être un enfant de Dieu. Et ce qui compte, c'est d'être. Et le Saint-Esprit nous permet d'être ce qu'il nous a appelé à être, c'est-à-dire un enfant de Dieu, né de nouveau, alléluia, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. C'est une œuvre miraculeuse, alléluia. Et parfois, on a besoin de passer dans des déserts pour qu'on soit un petit peu épuré, non ? Je vais vous donner une circonstance, un témoignage, là. Il m'est arrivé un truc, là, cette semaine. Ça m'a un petit peu... Je voulais sauvegarder mes données. Vous savez, un ordinateur, ça se fait. Vous avez un ordinateur ? Vous avez plein de fichiers. Moi, j'ai plein de fichiers, là. Fichiers de l'église, fichiers de ceci, fichiers de cela. Alors, le CA, je vais vous annoncer quelque chose. Et donc, je me dis, il faut quand même sauvegarder, là. Voilà, il faut sauvegarder. Donc, je prends mon disque dur, là, externe. Je fais les manips. Puis, ça se passe pas bien. Je sais pas ce qui se passe, ça se passe pas bien. Guillaume, viens voir, j'ai dit, toi, t'es plus jeune, dis-moi ce qui se passe. Il fait blablabla. Le truc, il plante. J'amène l'ordinateur et le gars me dit, monsieur, le disque dur, il est HS. Les données sont paumées, quoi. Bah, ouais, mais les données sont paumées. J'ai de beaux textes, hein. Il y a des belles prédications. Hein. Ouais, mais bon, remarquez, j'écris sur papier, donc c'est bien ça. Voilà. Mais, Seigneur, on n'est pas ce que l'on est par rapport à ce qu'on possède. On est ce que l'on est parce qu'on a une relation, une communion avec toi. Parce que tu es dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ceci, peut-être que tu peux passer par un temps d'épreuve où le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert à te séparer de certaines choses, de certains appuis, pour te faire connaître. Mais tu n'as pas besoin de tout ça. La seule chose que tu as besoin, c'est de savoir qui tu es. Bah, si tu es un enfant de Dieu, si tu as compris, tu as tout gagné, tu es sauvé, tu es vainqueur. Alléluia. Bah, si Jésus est ton berger, tu es sa brebis, et tu es bien conduit, etc., etc. Et on y reviendra là-dessus. En tout cas, je termine. Lorsque Jésus... Eh bien, annonce toutes ces choses. La Bible nous dit qu'il peut alors débuter son ministère. Et il dira, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est revêtu de la puissance d'en haut. Et il peut avancer dans eh bien, le ministère eh bien, auquel le Seigneur l'appelle. Et il n'a pas honte d'être ce qu'il est. Et il annonce, même s'il est dans l'abaissement, même s'il est dans l'humilité, même s'il aura eh bien, de l'adversité et toutes sortes eh bien, d'opposition, mais le vainqueur, ça reste lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu le même esprit. Amen. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez bien et on va demander au Seigneur de nous remplir. Amen. Et peut-être quelqu'un de renouveler sa pensée, de renouveler sa pensée, de renouveler eh bien son intelligence et non seulement de le renouveler de son intelligence mais d'agir puissamment dans sa vie. Que le Saint-Esprit transforme encore ton être et te révèle encore mais qui tu es. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a peut-être un grand savoir, qui a peut-être une grande connaissance, qui est intelligent, humainement parlant, mais tu n'es pas né de nouveau. Le Saint-Esprit n'a pas agi dans ton cœur. Tu n'as pas été convaincu de péché. Tu n'as pas eh bien, confessé tes péchés au Seigneur. Et par ce fait-là, eh bien, tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Mais ça, c'est une chose qui vient de l'action eh bien, de Dieu, qui est spirituelle. Et ce matin... Eh bien, on veut laisser la place au Saint-Esprit. Alléluia. Et dire, Seigneur, eh bien, tu veux me renouveler. Amen. Et si un enfant de Dieu est en train de passer dans un désert où le secours que tu espérais, humainement parlant, même ton secours à toi, tes données personnelles, ton disque dur, tu l'as perdu, mais le Seigneur, il est plus grand que les disques durs. Alléluia. Alléluia, alors on veut bénir le beau nom de Jésus. Seigneur, notre foi, Seigneur, ne dépend pas de ce que nous avons, de ce que nous tenons, mais notre foi dépend de ce que tu es, de ce que nous sommes en toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir et te louer. Et je te rends grâce, Seigneur, encore ce matin, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté, pour ce culte, Seigneur, pour ta parole. Et je veux te prier, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, nous soyons, Seigneur, renouvelés, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, nous comprenions et réalisions que, Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, tu as tout accompli à la croix du calvaire. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui compte, Seigneur, ce n'est pas de posséder ou d'avoir, mais c'est d'être devant toi. Et je te prie, Seigneur, afin que cette réalité, cette vérité puisse rétablir, Seigneur, des frères, des sœurs, dans une foi conquérante. Seigneur, peut-être quelqu'un est en train de pleurer parce qu'il se sent diminué, parce qu'il se sent abaissé, parce qu'il se sent humilié. Mais Seigneur mon Dieu, je te prie afin que tu illumines les yeux de son cœur, afin que, Seigneur, il ou elle puisse constater ce qu'il est, ce qu'elle est devant toi, son enfant, un enfant de lumière et qui chasse les ténèbres. Alléluia! Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia! Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être quelqu'un a-t-il besoin que l'on prie pour lui ou pour elle, afin qu'il y ait comme un rétablissement spirituel dans ta vie. Comme pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites, que tu, comme on le disait tout à l'heure, illumines les yeux de mon cœur. Alléluia! Pour que je constate vraiment que je suis un vainqueur. Et peut-être quelqu'un qui a-t-il besoin de dire, mais Seigneur, je ne veux plus faire de compromis, je cherche des astuces, mais en réalité, j'ai besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin de m'en référer qu'à toi, Seigneur, à toi la gloire. Alléluia!